Radio Larsen sur Radio Scarpe Sensé 94.10. Émission de Radio Larsen et aujourd'hui émission un peu spéciale. Je suis avec Laurent, l'éducateur du service Diapason. Laurent, bonjour.
Bonjour Hervé, bonjour tout le monde.
On va aller là chez une dame dont j'ai oublié le prénom.
Alors elle s'appelle Noémie.
Et pourquoi allons-nous chez Noémie ? Explique-nous un petit peu.
Parce que dans le cadre de l'accompagnement de Diapason, nous avons rencontré donc Noémie pour l'aider au quotidien dans la gestion de ses enfants. Elle en a 6. Elle est maman célibataire et elle est marquée du sceau des violences conjugales. Elle dira, voilà, moi, ma vie amoureuse, c'est 12 ans de vie de couple, 7 ans de violence.
Qu'est-ce qui amène finalement Diapason à rentrer en contact avec Noémie ?
Eh bien, ce sont les services sociaux qui nous ont interpellés puisqu'ils intervenaient auprès de la famille et étaient un petit peu démunis face à la marque de détresse des enfants, donc de gros problèmes de comportement, des problèmes à l'école et puis voilà, hein, une façon de vivre ensemble qui convenait à personne.
On est lundi après-midi, on part chez Noémie. Il n'y aura que Noémie chez elle ou alors il y aura les enfants ?
Alors techniquement, les enfants sont à l'école, mais c'est une famille pleine de surprises, donc on va voir ce qui nous attend.
Comment ça se passe généralement quand vous allez rencontrer toi et tes collègues, la famille ? Vous travaillez comment ? Qu'est-ce que vous faites ?
En fait, on travaille au plus proche de la réalité des familles, c'est-à-dire qu'on essaie de s'adapter à leur disponibilité, essayer de faire émerger une réelle demande. Voilà, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière le comportement troublé des enfants, quelle fonction ça peut avoir pour la famille. Et c'est vrai que la situation de Noémie nous a été présentée l'été dernier et c'est une situation assez alarmante et catastrophique, mais sur laquelle on parvient à essayer de faire parler les uns et les autres. Et Noémie a participé la semaine dernière, le 7 mars, à un colloque à Lille sur le placement autrement, et elle a pu à ce moment-là parler d'elle autrement que sous le stigmate de la disqualification.
Parce que avant, ce qui se passait, avant les accompagnements à domicile, c'est que par mesure de sécurité, on aurait pu enlever les enfants, disant voilà, madame, vous n'êtes pas apte à leur donner l'éducation nécessaire, à prendre soin d'eux, on va s'en occuper à votre place.
Voilà, clairement, tous les indicateurs pourraient nous orienter vers un placement des enfants en maison d'enfants ou en famille d'accueil. Seulement, l'expérience qu'on a des mesures de placement, c'est qu'elles ne sont pas toujours efficaces pour résoudre ce qui a le problème réel, j'ai envie de dire, ce qui fait problème pour la famille. Et le service Diapason, alors, était dans un premier temps une mesure judiciaire qui pouvait être ordonnée donc, par le juge des enfants comme alternative au placement. Et depuis quelques temps, est une mesure administrative donc, qui va s'inscrire toujours dans la protection de l'enfance, mais comme étant une dernière tentative, une ultime tentative, une nouvelle tentative autrement de permettre à la famille de voir s'il est encore possible de vivre ensemble.
Il y a encore du danger réel ou ça y est, c'est le passé. Les enfants aujourd'hui, comment on regarde la situation ?
Les enfants ne vont pas bien. Il y a toujours des signes de mise en danger réel pour chacun des enfants. La grande différence, c'est qu'on parvient tout doucement à se parler et à se dire les choses et à essayer de recommuniquer sur, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui met les enfants dans un tel état de colère et de détresse.
Le travail que vous le faites avec la maman et avec ses enfants ?
Avec la maman, les enfants, le papa, parce que c'est une maman séparée aussi. On essaye aussi de réhabiliter le papa qui a été mis à l'écart suite aux violences conjugales et qui a aussi du mal et en même temps envie de reprendre une certaine place auprès de ses enfants. Mais pas seulement, on travaille aussi avec la maman de la maman, la sœur de la maman. On travaille aussi avec tous les gens, ressources qui gravitent autour de la famille et qui peuvent aussi à un moment donné participer à une sorte d'aide pour les enfants comme pour la maman.
Votre travail, il est délicat parce que justement, il faut pouvoir être là au bon moment, ne pas faire à la place d'eux, mais faire en sorte que la situation s'améliore, autrement dit que personne ne soit en danger.
Voilà, c'est tout ce qui est très très compliqué et en même temps passionnant au service Diapason, c'est qu'il faut travailler non pas dans la suppléance, mais la réhabilitation des compétences et des rôles de chacun. Alors effectivement, la limite, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les gens une fois que la porte est fermée. Et il n'y a qu'une seule recette, c'est Pierre Bourgeot qui nous l'a indiqué, le seul moyen de travailler avec une famille, c'est avec lenteur et délicatesse. Il faut réussir à prendre le temps de se rencontrer. Parce que de toute façon, si on débarque dans la vie des familles, c'est que c'est déjà extrêmement compliqué. Et que finalement, ni la famille, ni notre service avons grand-chose à perdre à essayer de faire autrement. Mais nous avons besoin de temps et nous, effectivement, nous sommes toujours motivés par la protection de l'enfance. Et les choses sont très très claires avec la famille. S'il y a lieu de faire un placement parce que le danger est avéré et inéluctable, il sera fait. C'est des choses qu'on a déjà faites. Alors c'est vrai qu'on dispose d'une chambre ressource qui permet aux enfants d'être mis à l'abri pendant 72 heures, qui permet aussi de mettre en place un entretien familial où chacun peut réfléchir. Et un des enfants de Noémie a pu bénéficier de cette mesure d'accompagnement.
Noémie nous attend, elle était volontaire pour cette interview.
Totalement, elle nous attend et elle nous a déjà appelé pour nous dire qu'elle serait chez elle en ce début d'après-midi ensoleillé pour nous recevoir.
On va arriver là. C'est où ?
Au stop, au deuxième feu à gauche.
Bonjour.
Reportage.
J'ai 34 ans. Je suis maman de 6 enfants. Mon parcours de vie, j'étais maman pour la première fois, j'avais 17 ans et demi. J'étais 14 ans en couple, mariée 5 ans, battue 7 ans. Puis là, ça fait 5 ans que je suis divorcée et ça fait 5 ans que je rame avec mes enfants, quoi.
Vous avez été maman très jeune, par choix, par amour ?
Par choix. Je pouvais travailler à faire autrement, mais j'ai pris la décision de... ça n'est pas trop avec mes parents, dû à mon comportement à moi, en fait, c'était dans ma tête. Hein. Mes parents étaient super, mais je voulais partir, et la seule option que j'ai trouvée, c'était de faire un gosse. Quoi. On ne peut pas faire mieux. Ouais, je ne peux pas dire mieux, je pense que c'est ça.
Aujourd'hui, avec les parents, ça se passe comment ?
J'ai mon beau-père qui est décédé et ma mère, ça se passe super en fait. J'ai pris de la maturité et depuis en fait, on a une relation normale, tout à fait normale.
Maman de 6 enfants, garçons ou filles ?
J'ai 2 garçons et 4 filles.
Peux donner les âges ?
17 ans, bientôt 15, bientôt 14, 11 ans, bientôt 10 et bientôt 9.
Combien vivent aujourd'hui avec vous ?
J'en ai 5 qui vivent continuellement avec moi.
Et le 6e, il est où ?
Alors, on a fait une, j'ai fait une délégation partielle des droits parentaux pour sa marraine. Parce que, à l'époque, mon mari, il s'en prenait tout le temps sur elle. Et quelque part, je l'ai sauvée. Je l'ai sauvée en la mettant chez sa marraine. Et la petite, ça a duré tellement longtemps qu'elle s'est construite là-bas. Quand j'ai voulu la récupérer, sa maison, pour elle, dans sa tête, c'était chez sa marraine. Quoi. Donc... on a laissé les choses comme ça.
Votre conjoint violent, c'est le papa des enfants ?
Oui, mes 5.
À quel moment elle vient, cette violence ?
Je dirais qu'elle a commencé après sa première incarcération que j'ai connue. Quand il est sorti, c'est là que les violences ont commencé, en fait.
Il a fait la prison ?
Oui.
Au sortir de la prison, c'était plus le même homme que vous avez retrouvé ?
Non, plus du tout. Dès qu'il buvait, c'était plus le même en fait. Il avait, je veux dire, un dédoublement de personnalité, en fait. Le mec qu'on voyait à Jeun, que tout le monde voyait, n'était pas le même qu'on avait au soir, quoi.
La violence a été uniquement sur vous, également sur les enfants ?
J'ai toujours su protéger mes enfants jusque la dernière nuit où là, j'ai porté plainte. Il a fait de la prison pour violence conjugale et violence sur mineurs de moins de 15 ans, sur deux de mes enfants.
Pourquoi vous ne portez pas plainte tout de suite ? C'est la question que tout le monde se pose. Comment on peut admettre que l'on puisse se prendre des raclées ?
Je vais dire que tant que ça me touchait, moi, c'était pas grave. Je croyais en lui, j'étais amoureuse, hein, de toute façon. Je croyais vraiment que j'aurais pu réussir à le changer. Mais non.
Les enfants avaient connaissance de ces moments de violence ?
Oui.
Vous en parlez ?
On n'en parle plus.
À l'époque, quand ça se passait, il vous en parlait le lendemain ? Il l'évoquait ou alors il préférait ne rien dire et faire comme si de rien n'était parce qu'il ne savait pas forcément comment se positionner ?
Ça dépendait des enfants et de leur âge aussi, parce que je pense qu'ils n'avaient pas la même vision des choses.
Pour les plus grands ?
C'est déjà arrivé que mon fils me dit « on ne peut plus rester, maman, il faut qu'on s'en va ». Il est en larmes, mais je ne pouvais pas partir avec... En gros, sur les deux dernières années que je suis vraiment restée par manque de moyens, en fait. Je ne me voyais pas repartir à la maisonnée, de toute façon, mourir par prix, parce que comme j'avais fait un séjour...
La maisonnée, c'est là où vous êtes partie au moment de votre premier enfant, c'est-à-dire l'accueil pour... Non.
C'est la maisonnée, je suis arrivée là-bas il y a 11 ans, pendant la carcération de monsieur. J'étais enceinte et... j'ai pris la décision de me remettre avec, puis ben, j'écoutais personne, quoi. Et dès qu'il est sorti, je suis repartie avec. Et c'est de là que les violences elles ont commencé. Et n'ayant pas rentré dans les rangs, on va dire, pour la maisonnée, je savais pertinemment qu'il m'aurait pas repris.
Pourquoi ?
Parce qu'à l'époque, je ne rentrais pas dans les rangs et...
Ça veut dire quoi, ne pas rentrer dans les rangs ? Expliquez-moi.
Quand on arrive dans un foyer, il y a des règles. C'est des règles simples, mais c'est des règles qui nous servent logiquement, comme le fait de mettre de l'argent de côté, parce que quand on. C'est pas indéterminé, c'est arrivé à un moment donné, il faut qu'on parte du foyer. Donc on a besoin d'argent pour acheter des meubles, machin. Bah, moi, ça, je le faisais pas, parce que je savais pertinemment que dès qu'il allait sortir de prison, on allait repartir normal, en fait. Donc, ouais, je les écoutais à moitié, enfin. Une ado rebelle dans une maisonnée, quoi.
Et donc, vous pensiez à l'époque que c'était inutile de retourner là-bas parce que vous aviez cassé une partie du contrat en ne respectant pas les règles ? Vous n'avez même pas pensé les recontacter à ce moment-là ?
Non, j'ai pas... Puis je l'aurais vécu comme un échec, repartir là-bas encore une fois. Enfin, je pars de... À mes débuts, j'ai été envoyée à Cambrai pour... dans un foyer jeune maman, donc je parle de là, c'est mon point de départ. Après, on a un logement, machin, puis ça va pas, on repart dans un foyer. Donc déjà là, c'est un échec. Je reprends une décision, je repars avec mon ex-mari, et bing, ça va plus, il faut que je repars encore à ma situation de départ. Et je voulais pas. Pour moi-même et pour mes enfants, c'était pas... je voulais pas. Et puis je croyais tellement qu'il allait changer que je suis restée, quoi.
Quand vous dites c'est un échec, l'échec c'est quoi ? C'est de ne pas avoir réussi à le transformer lui ?
C'est un tout, en fait. Un tout. Mais au final, ça m'a servi, parce que quand j'ai divorcé, en étant mariée avec un tordu, on ne construit rien, donc on ne s'est pas battu pour ce qu'on n'avait pas, quoi. Mon divorce, en 2 mois, 3 mois, il était réglé, et puis c'est tout, quoi. C'est pas battu. C'est l'avantage.
Vous me disiez, je pouvais pas partir parce qu'il y avait des conditions matérielles. Voilà, vous n'arriviez pas à vous projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, vous vivez seul. C'est peut-être pas facile, mais finalement, c'était faisable.
Oui, c'était faisable. Mais quand on est dedans, et j'avais pas pris conscience qu'on était victime, en fait. Pour nous, c'était notre quotidien. On en a toujours été habitués. Les petits ont toujours été habitués au grandi avec un père qui faisait que ça de crier. Le connaissait, il le savait. Et quand je voyais qu'il y avait un verre dans le nez, je disais aux petits, chut, vous montez. Ils montaient tous. Et ils faisaient tous ce genre de dormir. Parce qu'ils le savaient. s'ils auraient mis le bordel ou s'ils auraient fait des bêtises ou ils auraient crié comme ils font là actuellement, il aurait réagi. D'où le fait que mes enfants sont durs, en fait. Le fait de vivre avec quelqu'un qui leur met la pression tout le temps, ils se durcissent. Moi, je peux le dire comme ça, ils se durcissent. Et moi, bah, une fois que je reprends le relais, je suis pas, c'est pas moi la violente de la famille. Alors moi, ouais, j'aboie, je crie, mais il n'y a personne qui m'entend, quoi.
C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que vous êtes faible. Leur idée, c'est ça. Elle s'est laissée faire par le père. Donc, voilà, de toute façon, c'est une faible.
J'avais jamais pensé les choses comme ça, mais ouais, je pense que quelque part, ça a joué, quoi.
Cependant, vous avez dit, on est victime. C'est-à-dire que les enfants, vous les considérez comme vous, même s'il n'y a pas eu forcément les mêmes coups, comme des victimes de ce mari violent.
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que ils auraient eu un père, c'est un grand mot, mais un père normal. Je pense pas qu'on galérerait autant à l'heure actuelle. De toute façon, je le dis ouvertement, j'ai une grande part de responsabilité. J'aurais pas été bête à croire en lui. Je pense pas qu'on en serait là aujourd'hui.
Vous dites, pourtant je l'aimais. Quand vous regardez a posteriori, c'était vraiment de l'amour ou c'était l'idée de lui, au moins, est capable de m'aimer et j'en ai un, je le tiens.
Bonne question. On va dire au départ, son côté mauvais garçon, c'est ce qui m'a attiré. Hein, j'aimais bien, quand on est jeune, j'aimais bien. Hein, j'aimais bien la vie que j'avais avec. Mais quand moi, j'ai commencé à prendre en maturité, en fait... Je pensais qu'il le faisait pour moi. Quand je me suis mise avec, il ne sortait pas en boîte, il ne sortait plus en boîte. Parce qu'on a quand même 10 ans d'écart. Donc, il ne sortait plus en boîte. Et parce que j'ai insisté beaucoup en disant, bah, moi, j'ai que 18 ans, quand même, quoi. Donc, il a commencé à ressortir. Et moi, je me suis dit, quand j'ai arrêté, enfin, quand j'ai eu la présence d'esprit de vouloir arrêter, quoi, je me suis dit, lui, il va arrêter aussi, quoi. C'est normal, il le fait pour moi. Mais au final, non, en fait, il était comme ça. Ben, il était dans l'alcool et la drogue, hein, tout ce qui était excès, hein, de toute façon.
Vous regrettez ?
Bien sûr. D'avoir été assez bête, d'avoir cru en lui. Je regrette de pas être partie avant. Au moment, je rigole, mais je dis, je l'ai vu au loin, parce qu'en fait, on est de l'Alain tous les deux. Et on s'est retrouvés sur Cambrai. Enfin, c'était vraiment le dernier endroit, parce que moi, j'étais au foyer à Cambrai. C'était vraiment le dernier endroit où j'aurais pensé le voir. Et je l'ai vu à 300 mètres au loin. Et je dis, c'est lui. Je suis partie en courant, et oui, effectivement, c'était lui. J'aurais dû me casser une jambe le jour-là. Mais je regarde pas mes enfants, quoi. Ouais, je... Comment je vais dire ça ?
Explique-nous, pourquoi on fait des enfants avec un mari violent ?
Des enfants pansements. Des enfants pansements, je pense. Il me disait, si tu me fais un enfant, tu verras, ça va changer. Donc voilà, quoi. J'ai fait ma deuxième dans la foulée, malgré qu'ils n'ont pas le même papa, ils ont que 2 ans d'écart, quoi. Je pense 3 mois après que j'étais avec, j'étais déjà enceinte de ma fille. Et j'ai eu mon troisième, c'est un retour de couche. Hein. Donc 20 ans, j'avais 3 enfants. Et à 26 ans, j'avais mes 6.
On est armé à 26 ans, à avoir tous ces enfants à gérer. Parce que vous étiez seul finalement à gérer les enfants. Ou est-ce que le père était là pour les enfants ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Il a été tout de même parfois présent ou de façon très épisodique ou jamais?
Déjà, il faut savoir qu'il travaillait toute la journée, donc déjà la journée il n'était pas là. Le fait qu'il soit là, sa présence jouait sur les enfants, parce que justement ils connaissaient leur père, ils ne voulaient pas l'embêter pour pas qu'il s'énerve en fait. Donc les enfants étaient beaucoup plus calmes et beaucoup plus réservés. Et d'où, quand je me suis séparée, je leur trouvais toujours des excuses en disant bah oui, mais bon, ils n'ont jamais osé rien dire, et là maintenant il faut les laisser s'exprimer, quoi. Mais en fait. C'est le début de mon échec, quoi, parce que j'aurais pas dû. J'aurais pas dû leur trouver des excuses. C'est leur laisser porte ouverte, en fait, c'est ça. Je me suis mis dans la merde tout seul, au final.
Radio Scar Sensei.
Reportage.
Ils vous aiment, vos enfants ?
Je pense, oui. Ils le font pas tout le temps voir, mais oui, ils m'aiment.
Ils le disent ?
Ça dépend les moments. J'en ai trop qui sont en pleine adolescence, donc c'est assez compliqué. Les deux petites le disent plus. Parce qu'elles sont petites, quoi, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. L'adolescence, ça joue beaucoup.
Vous vous retrouvez dans leur adolescence et celle que vous avez eue ?
Bien sûr. Leur comportement, c'est tout à fait moi quand j'étais jeune. Enfin, ils ont tous quelque chose qui me rappelle moi. Mais bon, moi, j'étais toute seule. Ma mère n'a pas réussi, donc je me dis, bon, si tu réussis pas avec 5, t'es quand même pardonnable, quoi.
Vous viviez avec ce sentiment d'échec encore maintenant ? Ça n'a pas marché avec le mari, ça marche pas avec les enfants ?
Encore plus maintenant. Là que j'ai beaucoup de difficultés avec les enfants, encore plus maintenant. Parce que c'est là où t'es au pied du mur et tu te dis... Ben ouais, mais au final, c'est de ma faute, et je le sais, enfin... Ouais, c'est compliqué, quand même. Mais...
C'est quoi, pour vous, l'autorité parentale, s'il fallait définir ça ? Qu'est-ce qu'on entend par autorité parentale ?
Ben, c'est le rôle de parent tout court, hein, de leur donner des règles, leur fixer des limites, puis encaisser en cas de souci, quoi.
Et les limites, ça, c'est compliqué ?
Alors, je les pose, les limites, mais comme hier, ma fille ne voulait pas rentrer de week-end, elle m'a négocié pendant 45 minutes à me harceler par message. Alors, je lui ai dit non, je rentre demain, elle est en stage en plus, donc tu rentres. Et pendant 45 minutes, donc j'ai dû aller chez ma voisine. Ma voisine l'a appelée en lui disant, écoute, maintenant tu rentres. Bah, une demi-heure après, elle était rentrée. J'ai assez aucune, alors que tes arguments, c'est ce que je lui ai dit, quoi. Mais non, moi, on m'écoute pas.
Sont plus compliqués que d'autres enfants de leur âge ? Et sont-ils compliqués ? Est-ce que c'est le bon mot, ça ? Est-ce que si on dit, ouais, ils sont compliqués, vos enfants, ça, c'est vrai ? Ou alors, ça vous va pas ? Non, ce sont des enfants qui n'ont pas eu... Enfin, je sais pas comment vous regardez ça.
Ils sont compliqués. Enfin, je vais le dire comme ça, mais c'est... Vous allez comprendre. Ils sont compliqués parce que, bah forcément, le fait d'avoir grandi pas comme les autres, ils ne sont pas comme les autres, sont différents. Mais c'est parce que leur parcours de vie est différent, je pense. Mais je suis sûre, de toute façon, parce que j'estime avoir fait mon rôle de maman comme toutes les autres, mais ça n'a pas marché, quoi.
Ici, dans la maison, c'est qui le chef ?
C'est eux. À l'heure actuelle, c'est eux. Alors, je défends ma place comme je peux, mais je me sens plus chez moi, je me sens chez eux. C'est, je m'en vais, je vais partir parce que j'ai rendez-vous, je vais revenir ici, ils vont être là avec leurs potes. Puis bah, c'est maman qui nettoie, c'est maman parce qu'ils font rien du tout. Enfin, ouais, je suis chez eux, quoi.
Là où on est, où vous nous recevez chez vous, c'est là où vivez votre ex-conjoint ?
Non. Je me suis séparée en février 2014, je suis arrivée ici en octobre 2014.
Pourquoi ? Vous pouvez pas rester là où vous étiez, c'était chez lui ?
Non, c'était pas chez lui, c'était chez nous. Mais j'avais besoin de me construire ma vie et quelque part c'était... je change de maison, c'est ma maison. Une page se tourne, quoi, réellement. Parce que je l'ai déjà quitté plein de fois, mais je l'ai toujours repris, quoi. Mais là, c'était bon, quoi.
C'est la bonne fois, cette fois-ci ?
Ouais, bien sûr. Je le vois, il me dégoûte, donc je peux pas...
Il a tenté de revenir ? en disant, et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Ben, toujours le même discours, hein, ça va changer, mais non, même pas, je ne veux même plus, en fait.
Aujourd'hui, vous considérez comment? Comme une femme ayant connu la violence conjugale, ou encore comme une femme violentée, quand on regarde les impacts que ça a aujourd'hui sur votre vie? Est-ce que finalement, cette violence, elle existe encore? Comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça reste terriblement présent?
Alors, c'est du passé, ça c'est sûr. Mais dans un coin de notre tête, on est obligé de le garder. Enfin, moi surtout, je suis obligée de le garder dans un coin de ma tête, ouais, de dire, bah ouais, mais bon, relativise, ouais, relativise, quoi, toujours.
Vous sentez seule?
Je suis entourée, mais ouais, il y a des moments où je me dis, c'est bon, quoi, j'en ai marre. C'est toujours moi. Alors, c'est toujours moi qui... Il y a un problème aux écoles, bah forcément c'est moi qu'on appelle. Ils font une bêtise, bah c'est moi qu'on convoque. Alors ouais, je veux bien, j'ai jamais eu de soucis avec la justice ou quoi. Et je me dis, c'est eux qui vont réussir à les mettre en prison. Enfin non, c'est pas possible. Quoi. Arrive à un moment donné, je vais être obligée de dire stop de toute façon.
On peut vivre avec 5 enfants à la maison et se sentir seul?
Bien sûr, bien sûr. Quand, à partir du moment où tu te lèves le matin et la première chose que tu fais le gendarme et tu fais ça à longueur de journée, quoi, c'est... Et tous les jours, tous les jours.
Vous y croyez encore, l'amour?
Non, je pense... Enfin, ouais, j'y crois encore parce que je me dis, c'est pas possible, on peut pas autant avoir la poisse que moi. Mais je pense que le prochain va devoir ramer pour dire de défendre sa place.
C'est-à-dire?
Je ne laisserai plus entrer quelqu'un dans ma vie aussi facilement, quoi.
Est-ce que le fait d'avoir également le passé, les enfants, les difficultés avec les enfants, est-ce que vous vous dites, il y a des moments, de toute façon, il n'y a aucun gars qui voudra vivre cette situation avec moi? Est-ce que de temps en temps, vous regardez cette situation en disant, non seulement je paye ça, mais en plus ça m'empêche de me reconstruire, de pouvoir penser l'avenir, même dans une vie... amoureuse, une vie intime, est-ce que ça vous enlève quelque chose?
Bien sûr, bien sûr. J'arrive pas à dire le fond de ma pensée, en fait. Bah ouais, il y a des moments, forcément, je me dis, le placement, ce serait une bonne solution pour dire de recommencer, mais j'ai peur de... prendre goût à ma tranquillité. C'est vrai, en plus. J'ai peur de prendre goût à la tranquillité. Là, je suis dedans, donc ouais, j'en peux plus, je suis fatiguée. Mais je me dis, si on prend mes enfants, j'ai jamais vécu ça. Parce que depuis 17 ans, ils sont avec moi, donc je me dis, ouais, qu'est-ce que je vais devenir? Et puis, et si j'ai le malheur de prendre goût à ma vie célibataire, on va dire, qu'est-ce que je vais faire? C'est un... De toute façon, il n'y a pas un mec normalement constitué qui resterait dans la situation dans laquelle je vis. C'est pas possible. Il n'y a qu'un tordu qui pourrait accepter. Parce que j'ai pas une vie normale. On n'a pas une vie normale. Faut le voir pour y croire, en fait. C'est vraiment ça, quoi.
Reportage.
Vous avez eu peur que les enfants soient placés?
Bien sûr. Depuis le premier jour où j'étais maman, j'ai toujours dit haut et fort, j'ai peur qu'on place mes enfants, j'ai toujours eu peur, j'ai toujours eu cette crainte. Et bon, chose qui n'est jamais arrivée, quoi. Mais là, j'y pense vraiment. Alors, pas parce que j'y pense, parce que j'ai envie d'y penser, mais parce qu'on me force à y penser, quoi. C'est surtout ça, quoi.
On vous présente ça parfois comme une solution à envisager ?
Bien sûr.
Pour le bien de qui ?
Bah, ils disent pour mon bien, pour le bien des enfants aussi. Parce que j'ai des enfants qui se mettent en danger et volontairement. Et c'est pas normal. Et pour leur sécurité, ce serait peut-être une bonne chose. Puis aussi pour que bah, je réinstaure des règles simples, les règles de tous les jours.
Vous refusez ? Pour l'instant, l'aide, elle se passe ici, avec la famille, l'intervention des travailleurs. Il y a Laurent qui m'accompagne aujourd'hui. Ça amène un plus. Ça permet de quoi ? De relativiser la situation. Et puis, qu'est-ce qu'ils font avec vous, au final ? Et qu'est-ce qu'ils font avec les enfants ?
On va dire que c'est devenu un pilier. Quand j'ai fait la demande, c'était ma solution de dernière chance. J'avais placé tous mes espoirs sur leurs épaules, c'est le cas de le dire. Et dans ma tête, c'était ouais, ils vont venir, ils vont voir, et dans la foulée, ils vont me prendre les enfants, parce que déjà à l'époque, c'était pas. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Et au final, non, parce que c'est des gens super, et ils ont appris à nous connaître, et ils cherché à nous connaître sur tout ça, quoi. Parce que c'est facile quand je débarque avec mes 5 gosses, bah, on me catalogue direct, quoi. Mais à côté de ça, je ne suis pas que la maman des 5 gosses terribles qui font chier tout le quartier. Enfin voilà, je suis une personne à part entière, quoi.
Ça vous a surpris qu'il ne soit pas dans ce jugement-là? Ça vous a surpris?
Ouais. Ouais, parce que pour moi, à partir du moment où la situation n'est pas normale, les services sociaux ne cherchent pas à comprendre, quoi. À partir du moment où il y a de la mise en danger volontaire, en plus, pour moi, je me suis dit, ben, ils vont les prendre, quoi. Ouais, ils vont pas chercher à comprendre le fait que c'est déjà arrivé que je pète des plombs pour des grosses conneries et que j'arrive à leur bureau en pleurs en leur disant, bon, bah, j'ai foutu, je me suis énervée, j'ai craqué, je lui en ai collé une, mais une bonne. Et qui me disent, bah ouais, mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Non, c'est pas bon. Ça ne devrait pas arriver jusque-là. Il y a d'autres solutions, mais ils cherchent tout le temps à comprendre bah, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi. Et puis, à savoir si c'est bénéfique pour les enfants. Ouais, ils creusent. Ils creusent pour comprendre et pour être sûr de faire le bon choix pour le bien des enfants.
Vous avez l'impression que ça va un peu mieux? Les choses commencent à se décanter, des choses qui, même si tout n'est pas parfait, j'entends bien, est-ce qu'il y a des choses qui s'améliorent au fil du temps, au fil des rencontres ?
Je pense parce que, alors moi je me vois pas changer, mais j'ai changé parce que c'est, pour moi c'est beaucoup plus simple de faire la part des choses. En fait, quand j'étais toute seule, mes enfants me manipulaient psychologiquement, en fait. Donc là, le fait d'avoir trois personnes neutres à côté de moi, on va dire, à un moment donné, si je craque ou quoi, je les appelle et ils me disent bah, « oui, mais vous avez raison, bah, continuez ». Donc ça m'aide. Mais bon, le fait de mettre des règles là où il n'y en avait pas forcément, bah, c'est la rébellion, quoi, à la maison.
C'est juste un peu normal. Faut laisser quoi ? Du temps pour que les choses s'apaisent véritablement ?
Je pense que dans une autre famille, ouais, le temps y aurait fait. Mais ils sont durs. Mes enfants sont durs. Très, 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 très durs. Très, très têtus. Très... Et puis même si tu leur prouves par A plus B que c'est bien pour eux, s'ils sont braqués et qu'ils s'en foutent, ben, ils s'en foutent. Ils vont te dire oui, oui, mais ça ne tiendra pas sur la longueur. D'où je pense que j'ai tenu aussi longtemps... avec les enfants à la maison, quoi.
Il y a encore des contacts avec leur papa ?
Bah, là, depuis une semaine, il revient. Ça faisait un an qu'on n'avait pas eu de signe de vie, et Bourg-Saint-Marita revient.
Comment vous regardez ça, vous ? C'est une bonne chose ? Finalement, ça peut vous aider, ça, ou ça vous inquiète plutôt qu'autre chose ?
Un un peu des deux, en fait. Parce que... Alors, c'est pareil, c'est, tout dépend des enfants. Et là, c'est leur part à chacun. J'en ai qui sont très en colère et qui n'ont pas forcément envie de voir leur père. J'en ai qui sont très demandeurs de voir leur père. Donc, en fait, ouais, tout dépend pour qui je me situe, en fait, pour répondre, en fait. Mais... Il a l'autorité parentale, donc d'une façon comme d'une autre, je peux pas lui couper, je peux pas le couper. Puis bon, là, il a été appelé un petit peu comme la solution de dernière chance, quoi, donc...
Appelé par ?
Une amie à moi, qui j'avais pas vu depuis un an, enfin, ouais, quasiment un an, et qui est venue et qui a vu la situation... Et donc, elle s'est permise de l'appeler en lui remontant les bretelles, en lui disant, écoute, ça fait un an que... T'as pas pris la peine de t'occuper de tes enfants. Enfin, Noémie, elle en peut plus. Faut que tu fasses quelque chose. Donc voilà quoi. En trois jours, il était chez les éducateurs, pour Samaritain. Mais bon, il a même pas proposé de les prendre ou quoi. Non, c'est bon, bah, ça va pas, on va les placer. C'est pas grave. Mais on me demande pas mon avis, on me demande rien quoi. Lui, enfin, il est marrant quoi. C'est un grand marrant.
Radio Scar, Sensei.
Reportage.
C'est quoi le fait d'être bon parent, s'il fallait définir ça? Qu'est-ce que vous mettriez derrière?
Le bonheur des enfants. À partir du moment où ton enfant il est bien, bien dans ses baskets, je pense que c'est là qu'on est des bons parents.
Ils ne sont pas heureux aujourd'hui, vos enfants?
Non, je pense pas. Je pense pas. Ils se disent heureux parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. De toute façon, même quand on leur dit non, ils le font. Hein. Mais ils ne sont pas heureux. C'est pas comme ça que ça marche. Quoi.
Qu'est-ce que vous espérez pour eux?
Du changement. Ouais, du changement. Mais je commence un petit peu à fatiguer et je commence à avoir du mal à visualiser le bout du tunnel. C'est très, très, très compliqué... pour moi, de me projeter dans l'avenir, parce que bah, je sais que j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, au-dessus de leur tête aussi, forcément, parce que c'est eux, quoi. Arrive à un moment donné, ouais, je suis au maximum de mes capacités, et il y a des choses que je peux rien changer, en fait. Ce qu'ils pensent dans leur tête, je n'arrive pas à... J'ai beau leur ramener des arguments en béton, bah, ils vont pas l'écouter, quoi, ils s'en foutent.
Qu'est-ce que vous souhaitez à vous?
Bonne question. J'arrive pas à... Moi, c'est secondaire. Tant que mes enfants sont heureux, du repos peut-être. J'ai l'impression d'être face à un mur dans une barque et de ramer pour avancer. Mais forcément, on peut pas avancer. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se remet. Ouais, j'ai pas une vie normale. Je peux pas dire mieux.
Vous vivez de quoi aujourd'hui?
De la CAF. Parce que. J'aimerais bien aller bosser, hein, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je suis tout le temps en train de courir après eux, j'ai tout le temps des rendez-vous à gérer. Entre deux, bah, j'ai le ménage à faire, parce que forcément, si je suis pas là, bah, y a rien qui bouge. Et ouais, non, dans la situation dans laquelle je suis, j'ai pas ma tête à moi. Donc je me lève le matin, je pense directement à eux, et toute la journée, je pense à eux, je suis obligée. Parce que même si je veux prendre un petit peu de temps pour moi, j'ai toujours un appel... Bon, bah voilà, il s'est passé ça. Bon, bah ok. Je vais gérer. Je vais le dire mal, mais quelque part, j'ai sacrifié ma vie pour eux, parce que c'est mon rôle de mère. Mais à quel prix? Parce qu'au final, ils sont pas heureux, je suis pas heureuse. Il y a personne qui est heureux, quoi. C'est... Ouais, face au mur, quoi. Je peux pas l'exprimer mieux.
Cette condition matérielle compliquée, ça pèse? Également, finalement, sur votre morale, sur des tas de choses
Non, on vit normalement, hein, on manque de rien. Mais ils sont toujours en train de demander sont toujours en train de demander des sous. Donc arrive un moment donné, on peut pas, quoi. Donc, c'est la nouvelle génération, je crois, qui est comme ça. Enfin, la nouvelle génération, plus le fait qu'ils ont été battus, plus... Enfin, c'est juste... Tout y joue, de toute façon. Tout y joue.
Si je vous offre une semaine de vacances, vous partez seul ou vous prenez les enfants ?
Je prends les enfants. Je prends les enfants, forcément. On l'a déjà fait, on est déjà parti, moi toute seule avec les enfants, et ça a été super. J'ai la chance de partir en VVF, donc il y a un club de loisirs en même temps, donc je fais une part des choses. Mais de toute façon, toute seule, je vais faire quoi ? Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Je vais partir toute seule, je vais faire quoi ? Je vais dormir toute la journée ? Enfin non, c'est pas... D'où j'ai peur de prendre goût, en fait.
Et maintenant, si je vous demande de résumer, d'évaluer l'intervention du service Diapason dans la famille, qu'est-ce que vous pourriez en dire ?
C'est une super aide. Ils sont arrivés, ils connaissaient rien de nous. Ils ont cherché à nous connaître. Ils ont, je vais pas dire attendu, mais attendu de voir et de comprendre les choses. Et ils sont toujours là à croire en moi. Je dirais en moi, parce que là, c'est pas en nous, mais c'est plus en moi. À me redonner confiance aussi, parce que arrive un moment donné, quand tu vois que t'es tout le temps en échec dans tout ce que tu fais, parce que j'ai que mes enfants, donc je fais que mes enfants, ça joue sur ta confiance en soi, quoi. Donc quand t'as pas confiance en tes capacités, tu peux pas aller plus loin que ce que tu imagines être capable de faire. Ouais, c'est ça.
Et il vous invite à aller plus loin ?
Bien sûr. Indirectement et inconsciemment, je change. Moi, je m'en rends pas compte. Je rigole, mais moi, je m'en rends pas compte. Mais apparemment, j'ai changé.
Qu'est-ce qu'il faudrait changer là-bas, chez eux ? Est-ce que c'est des choses qu'il faudrait modifier pour que ce soit plus en relation avec vos besoins ? Et vos attentes ?
Je pense qu'ils ne devraient rien changer, en fait. On les appelle, ils sont dispo, que ce soit le week-end, le soir. Il y a toujours quelqu'un qui nous répond. Enfin, même si nos éduques ne sont pas là, leurs collègues nous répondent. On a toujours réponse à nos sollicitations.
Le tatouage, ça date de quand ?
Après mon divorce.
C'était quoi, l'idée ? Papillons, les fleurs.
Ramener un petit peu de gaieté. Enfin, inconsciemment, je pense que c'était ça. J'ai toujours aimé les tatouages et je suis tombée sur une boutique où on était en vacances et la dame, elle faisait de l'aquarelle. Donc, comme ça se faisait pas dans le Nord, j'ai profité et je lui ai demandé de me faire des papillons. J'adore les papillons. Donc,
Si aujourd'hui, il fallait en faire un pour raconter votre histoire et votre avenir, qu'est-ce que vous feriez tatouer ?
Un attrape-rêve. Un attrape-rêve pour me rappeler que tout est faisable, quoi. Tout est faisable.
Reportage.
Tu assistes à l'entretien, donc à l'instant. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, point de vue du professionnel, de tout ce qu'on a pu évoquer, de tout ce qui a été dit ?
Qu'on est toujours loin d'imaginer la puissance, la portée des mots, et puis de se dire que les gens ont une vie avant et qu'ils sont en mesure de faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui, et que avant toute chose on reste aussi des travailleurs sociaux, et que on a une image aussi de contrôleur, d'évaluateur qui peut aussi un petit peu freiner les choses. Et puis surtout là aujourd'hui, à titre personnel, je suis venu dans une maison rangée avec un thé pour nous accueillir, et puis pas d'enfants et un calme que je n'avais encore jamais connu à la maison.
Le mot échec revient souvent tout au long de l'entretien. C'est un sentiment commun partagé par toutes les personnes auprès desquelles vous intervenez. Elles n'ont pas réussi à faire comme il faudrait faire.
Alors le terme d'échec, oui, il revient souvent parce que quand on voit débarquer des éduques à la maison, c'est quelque chose qu'on n'a pas su faire soi-même. Ensuite, c'est aussi, on peut l'entendre comme une chance en disant tiens, j'ai échoué de cette manière-là, j'ai pas grand-chose à perdre à essayer de faire autrement. Et c'est vrai que voilà, moi la notion d'échec, je l'entends aussi de notre travail parce qu'il nous arrive de vivre des situations difficiles dans lesquelles on se sent coincé et on peut aussi nous vivre ça comme un échec.
C'est Laurent qui dit voilà. Moi, je ne veux pas du placement des enfants, mais ici, c'est compliqué, mais je veux y arriver.
Ouais, alors c'est une grande première sans être une grande première, quoi. La grande première, c'est que la menace du placement, elle revient souvent. Ou si t'es pas content, tu te casses. Ou enfin voilà, il y a des choses, genre on peut plus de vous. C'est des choses qu'on entend souvent. Et en même temps, c'est une famille qui se mobilise beaucoup pour tous les rendez-vous, les entretiens familiaux, les thérapies. On peut les qualifier de thérapies, les rendez-vous qu'on fait avec la famille. Et donc ça témoigne aussi du fait que personne ne veut du placement.
L'intervention du tiers qui appelle l'ex-conjoint pour le remettre dans la boucle. Comment le professionnel qui accompagne regarde cette intervention que vous n'avez pas pu anticiper finalement?
Ben c'est de manière très pragmatique, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans un triangle de victime, sauveur, persécuteur. Pas de sauveur sans persécuteur, pas de persécuteur sans victime, et ainsi de suite. Et cette personne qui revient dans la vie de la famille un an après pense bien faire en disant écoute, bouge-toi, quoi, tes enfants et ton ex sont en galère. En fait, bien qu'elle soit bien intentionnée, elle fait pire que bien, puisqu'elle remet monsieur dans une position de sauveur qui, comme on l'a entendu, voilà, n'est pas fiable. Et donc, ça peut mettre les gens en difficulté. Madame le disait qu'une de ses enfants vit mal, au moins à travers l'école, depuis qu'elle sait que son père pourrait revenir dans le circuit. Alors voilà, les gens sont pavés de bonnes intentions et c'est parfois difficile. Mais voilà, je me dis, vaut mieux ça que la responsabilité de ne rien dire, de rien tenter.
L'indifférence, c'est pire que tout.
Il n'y a rien de pire que l'indifférence.
C'était... voilà. Est-ce que cet entretien, finalement, va être utile ou pas pour la famille, selon toi? Le fait qu'on ait pu enregistrer, qu'on ait pu discuter ensemble sur un mode très libre, je suis permis d'aller parfois assez loin dans le questionnement et les réponses ont été profondes, franches. Est-ce que ça va aider ou est-ce que ça peut être quelque chose qui handicape parce qu'une fois que c'est dit, puis hop, basta, on passe à autre chose?
Bah, la réponse est dans la question. Dès lors qu'elle a accepté l'interview, c'était déjà bon, quoi. Puisqu'on a eu du changement aujourd'hui dans les façons d'être accueillis aujourd'hui, je le redis, c'était du jamais vu. Ensuite, voilà, il faut parler pour se réaliser aussi, peut-être pour accepter les choses. Il y a une connotation positive qu'on a dit après hors interview, c'est que la vocation même de ce témoignage, c'est aussi peut-être de faire résonance chez d'autres personnes, d'autres victimes, sortir de la solitude ou du sentiment d'être enfermé pour se dire « merde, je ne suis pas seul à vivre ça et peut-être que je peux moi aussi essayer de faire autrement ». En tout cas, voilà, ce que moi je reçois, c'est que cette maman, elle met de l'énergie à essayer de faire autrement. Donc, elle est en vie. Il y a de l'espoir, il y a du refus. On essaie de lutter contre la résignation. Et j'ose espérer qu'elle pourra partager aussi l'écoute de ce reportage avec ses enfants qui pourront entendre leur maman autrement.
Voilà, et puis, dès que c'est possible, on donnera, cette fois-ci, je propose la parole aux enfants.
Ça sera un grand bonheur de les recevoir au studio tous ensemble et puis de partager ce moment-là parce que c'est quelque chose qui est hors du temps et qui leur appartient et qui va laisser une trace, ne serait-ce que celle de passer un bon moment ensemble en famille, comme une famille normale pour le coup, même si les familles normales, entre guillemets, ne viennent pas faire de la radio, mais en tout cas partager un moment ensemble pendant une heure et demie où on se sent bien les uns avec les autres.
Je te redépose au service, c'est quoi après la journée de l'éduc?
Ah bah après, je dois continuer de sauver le monde, mais ce coup-ci, je vais le faire sans toi.
Merci, Laurent. We'll be right back.
tu m'as envie.